Voilà, nous vous invitons à présent à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Touba. Comment là.
Merci, Sylvain Salama. Bonsoir. Le gouvernement congolais décide du désarmement forcé des FDLR sous le regard observateur des officiers rwandais, annonce hier lundi du ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Comment les autorités congolaises comptent-elles s'y prendre? C'est la question au centre de ce dialogue entre Congolais. Pour y répondre et répondre aussi à vos nombreux messages, nos invités au débat ont pour nom Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central, Ernest Caviro, député national du RCD-KML, allié de l'ANP, Ernest Faure Sematumba, il est chargé de programme au Paul Institute, institut interculturel pour les Grands Lacs, qui intervient depuis Goma. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le gouvernement congolais décide du désarmement forcé des FDLR sous le regard observateur des officiers rwandais. Le porte-parole du gouvernement central a dit hier lundi dans son compte-rendu du Conseil des ministres. Kelly Couté nous en dit plus.
Dans le compte-rendu fait par le ministre de la Communication et des Médias, les FARDC vont traquer les FDLR. Cependant, cela se fera sous l'œil des officiers rwandais de renseignement. En effet, les choses se sont précipitées ces derniers mois. La semaine dernière, Kinshasa avait reçu pour une mission de travail de quelques jours le chef d'état-major général de l'armée rwandaise, James Kabarebe. Une visite qui faisait suite à la réunion de Gisenyi au Rwanda entre les ministres de la Défense et ces deux pays. Selon certaines sources, la visite du chef d'état-major de l'armée rwandaise s'inscrivait dans la mise en application d'un plan militaire conjoint signé le 5 décembre dernier à Kigali pour le désarmement des milices hutus rwandais des FDLR, mais dont les détails ne sont pas encore connus. Rappelons que le désarmement et le rapatriement des FDLR fait l'objet de plusieurs rencontres depuis quelques années à plusieurs niveaux, notamment régional et bilatéral. C'est le cas de la réunion de novembre 2007, au cours de laquelle le gouvernement de la RDC et celui du Rwanda ont signé un communiqué conjoint pour mettre fin à la menace pour la paix et la stabilité des deux pays et de la région des Grands Lacs. Toujours la même année, le gouvernement de la RDC avait présenté un plan d'action pour régler le problème des ex-parrains Teramwe. Bien entendu, des détails sur la mise en application restent à découvrir. Quand, comment, où et pour quelle durée va se dérouler cette opération de désarmement des FDLR?
Monsieur le ministre Lambert Mende, Ernest Caviro, député national, et Ernest Faure Sematumba, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà. Je commence par vous, monsieur le ministre Lambert Mende. Est-ce que vous avez d'autres détails sur cette information que vous avez vous-même livrée au public?
Mais les détails seront connus du public au moment de la mise en œuvre du projet. Vous savez qu'il s'agit d'un problème sécuritaire et même militaire, et qu'on ne peut pas sur la place publique étaler un projet de cette nature.
Secret défense.
Oui, c'est un secret défense, voilà.
Voilà. Comment vous accueillez, Ernest Caviro, vous qui êtes député national et surtout élu du Nord Kivu?
Nous avons beaucoup souffert des crimes des FDLR qui, je vous l'ai dit l'autre jour, sont capables même d'enlever une femme mariée le jour de son mariage, après avoir abattu son mari. Et j'étais témoin de cet événement. Maintenant qu'on décide de faire des opérations conjointes avec le Rwanda, pays voisin pour l'éternité, il y a quatre préoccupations qui m'animent. La première, la plus importante, ces opérations vont se dérouler au Kivu, c'est-à-dire dans les sites Kivu, notamment Walungu, dans d'autres territoire où il y a les FDLR comme aussi Loubero, Awalikale, dans le Nord Kivu. Mais la question va se poser, comment va-t-on protéger les Congolais et les Congolaises? Parce que nous avons suivi les opérations qui se passent entre la Lone Resistance Army et les trois armées, Sud-Soudan, UPDF et FARDC. Nous constatons qu'il y a une lacune grave. La population congolaise n'est pas protégée. Et donc, nous nous demandons qu'on puisse faire tout ce qu'on veut faire, mais en protégeant d'abord la communauté congolaise. Il n'a jamais été le cas depuis qu'on a commencé ce genre d'opération. J'espère que cette fois-ci, ça sera fait. Deuxième chose, nous sommes inquiets parce que le rapport de l'ONU vient de démontrer que le Rwanda, non seulement arme et les CNDP et finance ce dernier mouvement, mais a des troupes au Congo. Cette question, à notre avis, devait être vidée avant d'aller plus loin dans la coopération avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que si réellement il y a des troupes rwandaises sur le terrain, notamment au Nord Kivu, ça devient assez aberrant de prendre les Rwandais pour contrôler ce qui s'est fait alors qu'ils ont des troupes en catimini qui peuvent faire n'importe quoi pour saboter l'opération ou l'amener à une autre direction. Par ailleurs, on ne peut quand même pas, après que l'ONU ait annoncé officiellement à travers un rapport d'experts que le Rwanda, à travers un groupe rebelle, agresse le Congo, continuer comme si de rien n'était. Nous n'avons pas vu.
L'ONU ne parle pas d'agression, hein?
Oui, je parle de l'agression, moi, élu du Congo. Parce que quand on dit qu'il y a une présence des troupes étrangères dans mon territoire, moi, Congolais, j'ai dit que c'est une agression.
Donc, on retient les deux points.
Non.
Comment protéger?
Quatre points.
Allez-y très rapidement, comme ça, on donne la parole aux autres.
Savoir comment. Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports quand on continue à dédier, on va ouvrir les ambassades, on fait les opérations.
Troisième élément.
Ces opérations, c'est bien de dire que c'est un secret de défense, mais c'est des opérations qui sont passées sur des êtres humains, et je pense que ce cloisonnement doit être assez dosé. Parce que si on cloisonne trop, on va se retrouver avec des gens qui sont malmenés par les FDLR, comme aujourd'hui, on a des gens qui sont malmenés par les LRA. Le reste de mes observations, je les donnerai après, mais ce sont là mes inquiétudes, j'espère qu'on y a pensé.
Voilà. On va écouter aussi Ernest Faure Sematumba. Qu'est-ce que vous pouvez dire, en plus de ce que dit Ernest Cameron?
Bon, je partage avec l'honorable député un certain nombre d'inquiétudes. Hein.
Vous intervenez au moment, je précise.
Oui. C'est que il faut penser que ces traces militaires en prenant en considération le sort des populations congolaises. Parce que j'ai une image forte que j'ai recueillie à Walikaler lorsque Poutine m'a déclaré ceci, je cite, le FDLR se porte un serpent qui couvre les œufs de tes poules. Comment frapper le serpent sans casser les œufs? Ça devrait être une préoccupation majeure, ça. Je partage cette inquiétude avec l'honorable Caviro, mais je réserve aussi au fait que, d'ailleurs l'honorable Caviro l'a dit aussi, c'est que cette option coercitive n'est pas en soi une nouveauté. Donc ça a toujours été évoqué, d'ailleurs dans l'introduction, ça a été aussi relevé, c'est que finalement cette option coercitive projet un peu comme un slogan plus ou moins, sauf que ces derniers temps, c'est bien de le relever, c'est qu'il y a eu plusieurs évolutions. Ça a été aussi dit, c'est qu'il y a eu ce rapprochement du Rwanda et de la RDC à travers les différentes rencontres au niveau politique, élevé, militaire et politique. Et il y a aussi, c'est que les députés Cassino disaient, c'était concerté de rebelles ougandais du palais national de la Garamba par les armées de la RDC, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et maintenant la République centrafricaine.
Oui.
Donc, est-ce que c'est à cause de cela que c'est possible de faire la même chose, le même montage contre les RDC? Et là, ça pose des problèmes, ça pose des préalables politiques, l'honorable Gaviro parle maintenant du rôle du Rwanda parce que, enfin, j'espère que monsieur le ministre va nous en dire davantage. Quel sera le véritable rôle du Rwanda? Est-ce que la conscience est assez construite à ce niveau pour voir les deux armées dire qu'elles ont un ennemi commun et que donc il y a un intérêt sécuritaire partagé et qu'il faut donc partager les responsabilités? Mais déjà, vous entendez les discours du député,
oui.
Il dit là, Là, c'est pas possible. Donc maintenant, il faut que peut-être le ministre se dépasse un peu et qu'il nous dise, voilà, ce n'est pas l'armée rwandaise qui viendra, c'est notre armée. Bon, maintenant, par quel coup de baguette magique cela va se passer.
Oui, on va laisser alors le ministre, on va lui donner l'occasion de s'exprimer. Et on va poursuivre, évidemment, avec d'autres interventions, peut-être après le ministre. Monsieur le ministre Lambert Mende, vous avez donc suivi les inquiétudes du député national Kéaviro. Comment comptez-vous protéger les Congolais, particulièrement les civils, pour qu'ils ne subissent pas le même sort des populations de Dungu dans les opérations, face aux opérations de la LRA? D'abord, par rapport à cette question, monsieur le ministre Lambert Mende.
Oui, j'aime autant la question telle qu'elle est posée par Monsieur Onesfor, le deuxième intervenant, parce que j'ai l'impression que l'honorable Kéaviro sait tout. Il répond à des questions qu'il ne se pose même pas. Quelle est la nature de cette intervention? Il parle déjà d'une opération conjointe, armée rwandaise, armée congolaise. C'est encore une fois cette maladie du pessimisme qui est chevillé au cœur de certains Congolais qui ne voient que d'un mauvais œil ce que leur gouvernement fait. Il n'y a pas d'opération conjointe militaire entre les deux armées. Et donc avant de commencer à faire des analyses, il faut au moins prendre la peine de comprendre ce que le gouvernement a dit. Le gouvernement a dit qu'il a pris l'option de procéder au désarmement des FDLR et des autres groupes armés. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? On n'a même pas écouté probablement notre compte-rendu. Tous les groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, vont être passés au désarmement par les FARDC. Et nous avons dit un peu plus loin que pendant cette opération, puisqu'il s'agit quand même des rebelles rwandais, dont le destin est de rentrer au Rwanda, la moindre des choses, c'est que nous puissions avoir une mission d'observateurs rwandais qui coordonne avec nous, ne fût-ce que la phase du retour de ces gens vers le Rwanda. Et voilà qu'on nous fait des analyses, que c'est les Rwandais qui vont venir se battre, que ce n'est pas nous-mêmes, etc. Ce n'est pas ce que le gouvernement a dit. Alors moi, je trouve tout à fait aberrant de commencer à discuter sur des choses qui n'existent pas. Personne n'a dit que nous allons le faire en force conjointe, forces armées de la RDC et forces armées du Rwanda. Les observateurs, il y en aura beaucoup. Il y aura la MONUC probablement, il y aura le SEC et il y aura aussi le Rwanda qui sont la destination finale de ces rebelles.
Oui, donc,
pour la première chose.
Oui, monsieur le ministre, donc juste pour préciser que les Rwandais seront là seulement comme observateurs et
en
pas combattants.
En observation, je reprends mot pour mot le terme du communiqué du gouvernement. Alors, il ne faut pas commencer à faire croire aux Congolais autre chose, comme pour appeler aux gens, appeler les gens au pessimisme, etc. C'est le gouvernement, c'est la RDC qui le fait. Nous serons très probablement assistés par la MONUC, puisqu'il y a une mission qu'on a donnée à la MONUC. Et nous inviterons des observateurs qui sont concernés, notamment des officiers de renseignement rwandais.
Mais il y a cette
préoccupation. Nous allons dire on va faire ça avec des troupes rwandaises.
Ok, là c'est clair, monsieur le ministre. Et comment protéger les civils? Est-ce que vous y avez pensé?
Alors il y a quand même une difficulté lorsque nous, les civils, nous permettons de faire des analyses sur la situation militaire. Et il y a pas mal de nos compatriotes qui ont pris cette habitude-là, de parler comme s'ils avaient la maîtrise de la tactique ou de stratégie militaire. Tout d'abord, je ne connais pas de guerre. Lorsque vous êtes agressé, comme nous le sommes, ou nous devons dire on ne va pas se défendre, sinon nous allons connaître des cas de mort ou des dommages collatéraux. Ce choix n'est laissé qu'à celui qui agresse. Donc il est important que lorsque nous réfléchissons sur les problèmes de la guerre, d'établir un distinguo entre celui qui est agressé et qui doit se défendre de toute façon et celui qui agresse. Alors on ne doit pas se comporter ici comme si le Congo avait le choix, étant agressé, de répondre ou de ne pas répondre à l'agression. Nous sommes dans l'obligation de défendre notre intégrité territoriale et ce faisant, il arrive qu'il y ait des dommages collatéraux. Nous faisons en sorte de limiter les dégâts. Et souvent, quand nous le faisons, on nous taxe d'être des gens qui n'ont pas de force, qui ne veulent pas se battre, etc. Parce que simplement, nous refusons d'engager le combat là où des populations civiles peuvent avoir à en souffrir. On l'a vu très souvent avec le CNDP et notamment à Rumangabo,
oui.
Où les problèmes des femmes, des enfants ont amené le commandement à faire reculer les troupes et nous savons que beaucoup de gens nous en ont voulu pour cela. Donc, les mêmes préoccupations continueront à nous guider, mais qu'on se fasse bien comprendre, il est hors de question que l'on nous dise que nous ne pouvons plus défendre notre pays contre l'agression de ces groupes armés, parce que sinon il va y avoir des dommages collatéraux. Qu'on nous dise s'il y a une science militaire qui permette d'abord de mettre des parois, je ne sais pas, étanches, entre la population et les combattants qui vous agressent, avant de pouvoir répondre à une agression.
Donc,
c'est vraiment une façon de parler qui, pour moi, ne correspond à aucune réalité.
Donc, quand vous entendez parler, monsieur le ministre, ça risque d'être inévitable.
Mais évidemment que nous devons nous défendre, notre population nous appelle à nous défendre.
Oui.
Et c'est la première fois que j'entends une telle argumentation où on dirait au gouvernement ne nous défendez plus, ne défendez plus le territoire, sinon il va arriver que nous mourions. Ce sont ces Congolais qui vont se défendre. Ce sont des enfants du Kivu, ce sont des enfants d'autres provinces que nous allons envoyer au feu pour défendre leur pays.
Oui.
Ils ont bien sûr des instructions de ne pas faire des dommages collatéraux. Mais est-ce qu'on croit que les ennemis aujourd'hui, ceux que nous combattons aujourd'hui, ne font pas de dommages collatéraux pour que lorsque eux, ils tuent des gens, ils tuent déjà maintenant, on vienne porter ça sur la responsabilité du gouvernement? Je pense que c'est un faux débat.
Oui. On va revenir à vous, monsieur le ministre, Ernest Servion.
Oui, je suis surpris par les mots que le ministre met dans ma bouche. Il dit que j'ai dit qu'on n'était pas à se défendre parce que j'ai exprimé en tant qu'élu du peuple congolais du Nord Kivu, où il y a des Indiens, il y a des FDR, le souci de la protection des mêmes électeurs quand il y a des opérations militaires sur leur territoire. Ils n'ont pas invité les FDR. D'ailleurs, le Congo n'a jamais invité les FDR. Les FDR ont été imposés. Je n'ai jamais demandé que l'opération n'ait pas lieu. Il faudrait que le ministre appelle à écouter avant de réagir avec parfois des sarcasmes qui n'avancent pas les choses. Parce que nous voulons utiliser cette façon d'une semi-insolence. On peut y aller.
Non,
je le dis clairement. Mais il n'y aille pas parce que sinon j'ai
d'aller. Non.
Ok, j'ai dit ceci. J'ai dit que j'espère qu'en prenant la décision de prendre cette opération, que moi j'ai appelé de tous mes voeux depuis très longtemps, on puisse prendre la précaution de protéger la population. Parce que maintenant, avec la LRA, on se rend compte que les civils sont les victimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas un bilan du nombre de morts des gens qui s'affrontent, mais on a un bilan de milliers de civils qui sont tués, qui sont nos électeurs en tant que députés nationaux. C'est un souci normal. Deuxièmement, quand nous parlons des observateurs et des opérations des phares d'essai, nous ne pouvons pas ne pas soulever cette question. Parce que pourquoi est-ce que nous voulons amener les opérations? Nous voulons mener les opérations pour bouter dehors des gens qui ont commis des crimes.
Mais vous avez dit la réponse du ministre quand il dit que les Rwandais ne viendront pas combattre, ils seront là comme une mission d'observateur.
Je ne suis pas à ma première opération contre les FDR à laquelle j'assiste, il y a eu les mixages. On a dit que les mixés vont s'attaquer aux FDR et à tous les Ntiramoué. Et les mixés se sont attaqués vaille que vaille aux villageois, à ceux qu'ils soupçonnaient. Il y a eu même des incendies des villages dont jusqu'à aujourd'hui les responsabilités n'ont pas encore été établies.
Oui, là c'est par rapport à la protection des civils, mais par rapport au rôle d'observateur des
officiers rwandais. Le rôle d'observateur des officiers rwandais est biaisé par les rapports des Nations Unies qui dit clairement que le Rwanda est à côté d'un de ces groupes armés qu'on doit désarmer, à savoir le CNDP.
Oui, c'est pourquoi vous avez voulu
la question devait être évidée. On devait savoir qu'est-ce qu'on va faire. Nous allons appeler le Rwanda qui est notre voisin pour le territoire avec lequel on va avoir de bonnes relations et qui, dont les citoyens sont en train de faire de causer des troubles ici, mais dont le gouvernement aussi cause des troubles ici. C'est ce que l'ONU nous a dit. Je voudrais savoir le gouvernement comment il a géré cette question de ce rapport. Parce que ce rapport amène quand même un éclairage nouveau sur la question. On ne peut pas dire qu'on va passer, on va passer comme ça ces rapports sous silence, parce que ces rapports montrent qu'il y a des relations militaires, financières et économiques entre des groupes qui font la terre chez nous et un gouvernement qui a signé des accords de paix avec nous. Il faudrait qu'on arrive à... J'espère qu'on a... J'ai exprimé un espoir, je n'ai pas attaqué. Il ne faudrait pas que le gouvernement pense que quand il fait des histoires, nous n'allons pas faire des observations. Nous le ferons même si il nous traite n'importe comment. Nous continuons à faire des observations.
Bref, il faut que la question soutien présumé du Rwanda au CNDP soit vidée.
Elle doit être vidée.
On espère, c'est Matumba.
Oui, je voudrais d'abord réagir quand même par rapport à son excellence, monsieur le ministre, parce que...
Donc, il est deux comprenants.
Oui, mais quand il affirme que, bon, les civils parlent de la situation militaire, comme si, je crois que la situation sécuritaire devait être au centre de tous les débats. On ne doit pas entrer dans les secrets de France, mais... Comme la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, les victimes, c'est tout le monde, je crois qu'il appartient quelque part aux civils d'avoir leurs opinions. Donc moi, je partage un peu l'indignation de l'honorable député. D'ailleurs, je vais citer un grand homme. De Gaulle disait que la guerre est une situation ou est un problème trop sérieux pour qu'on les laisse au ciel militaire. Donc là, c'est juste pour dire que ce frappe la province orientale, ce qui frappe le sud qui joue et le nord qui joue, ça ne concerne que les militaires, pas que les militaires et que les civils sont nos principales victimes et on ne devrait pas parler lorsqu'on parle
de la guerre collatérale.
Donc là, vraiment, je pense que c'est trop simplifier les choses. Bon, autre chose, je crois que le problème, l'information que nous n'avons pas, c'est par rapport à la mise en œuvre de cette traque par les FARC. Si c'est aujourd'hui, donc, c'est-à-dire la réponse à la question quand pourrait décanter un certain nombre d'incompréhensions.
Non, mais c'est le ministre, à différents secrets de France, on ne peut pas, il ne peut pas le divulguer, sinon... les personnes ciblées vont tout de suite peut-être l'éviter.
Oui, tout à fait, je le comprends. Mais alors, quand c'est comme cela, on se dit l'information arrive ou la décision gouvernementale arrive dans un contexte précis où il y a un montage international ou sous-régional contre les LRA et que donc, on se dit... Comme on parle de traquer les FDLR, oui. Je remercie le ministre pour la clarification. Il ne s'agit pas que des FDLR, mais de tous les groupes armés.
Oui.
Bon, alors, c'est dit, dans le meilleur des scénarios, ce sera un montage de niveau international ou sous-régional contre ces groupes armés, ce qui fait piquer, évidemment, les députés nationaux. Mais alors, si ce n'est pas ça, on se pose la question, les FARC, l'armée nationale, j'ai déjà suivi les ondes de Radio Okapi,
oui.
Et le ministre lui-même dit que notre armée a des difficultés, c'est une armée en gestation,
oui.
Après des années de guerre,
maintenant, on est là,
directement, et le fait de retrouver cette puissance de feu pour faire face à tous les groupes armés,
oui.
sans faire appel à des forces.
Oui, on répond. Oui, donc là, oui, la ligne est un peu entrecoupée, mais on retient que vous posez la question de la capacité des FARDC à mener ce genre d'opération, monsieur le ministre Lambert Mende. Et d'abord la question de Ernest Caviro sur le soutien présumé du Rwanda au CNDP. Est-ce que la question ne devrait pas être vidée avant l'implication de cette mission d'observateur au Rwanda? Ça, c'est la préoccupation d'Ernest Caviro. Et puis, il y a la capacité des FARDC à mener ce genre d'opération. C'est ce que dit Ernest Fort Sematumba.
Oui, tout d'abord, nous n'ignorons pas et nous ne méconnaissons pas le rapport des Nations Unies que nous avons d'ailleurs accueilli à bras ouverts, puisque il venait confirmer des choses que nous-mêmes au niveau du gouvernement, que l'honorable Caviro, peut-être à titre individuel, mais rarement d'autres institutions, avaient toujours défendu jusqu'à présent, c'est-à-dire le soutien que ce pays voisin est supposé et maintenant trouvé avoir apporté à une rébellion dans notre pays. Ça, c'est une chose. Mais je voudrais quand même clarifier une deuxième chose.
Mmh.
C'est vrai que la guerre est tellement sérieuse qu'on ne la confie pas à des, à des militaires seulement. Moi, je ne suis pas un militaire. Moi, je suis un élu comme l'honorable Tshabiro. Avant d'entrer au gouvernement, je ne viens pas de nulle part.
Même si vous avez...
De toute façon, nous, les députés,
ouais.
qui avons été élus,
ouais.
nous devons savoir qu'il y en a un qui a été plus élu que nous.
Ouais.
C'est le président de la République.
Ouais.
Tout le monde l'a élu.
Ouais.
Ce n'est pas seulement dans un territoire.
Ouais.
On l'a élu à travers tout le pays.
Ouais.
Alors, nous devons quand même accepter qu'il ait le droit de prendre certaines initiatives,
ouais.
même que nous ne maîtrisons pas. Toutes les données, il a certainement plus d'informations avec son état-major que nous tous.
Mmh.
Donc, pour en revenir à la question que l'honorable et M. Nespor pose,
oui.
avec raison, c'est que la situation telle qu'elle se déroule dans le Haut-Ouélé est tout à fait différente de celle du Nord Kivu. Et donc, essayer d'établir un parallélisme ne correspond pas à la vérité. Dans le Haut-Ouélé, nous avons avoué clairement que nous avions une alliance ponctuelle militaire avec les Rwandais, avec l'Ouganda, dont les troupes participent avec nous à la traque des groupes de LRA. Nous savons pourquoi, et l'honorable aussi le sait. En ce qui concerne le Nord Kivu, précisément à cause de ce rapport dont il parle, nous avons préféré à une alliance politique une action congolo-congolaise, nous-mêmes avec la MONUC, et m'inviter l'armée rwandaise qui est concernée, un, ça se passe à ses frontières, deux, ce sont ses citoyens qui vont être traqués et désarmés et qui doivent rentrer chez lui. C'est pourquoi nous les avons invités comme observateurs. C'est le minimum minimorum. Alors, il ne faut pas dire que c'est la même chose. Ce n'est certainement pas la même chose. D'un côté, il y a une participation claire, avouée, avérée d'une armée d'un pays voisin. De l'autre côté, cette participation n'existe pas. C'est simplement une invitation à des observateurs pour tuer un peu cette méfiance qui a élu domicile entre nous et qui nourrit des aventures comme celle de Nkunda notamment et d'autres groupes armés qui affirment se défendre contre Nkunda, mais au lieu d'entrer dans notre armée nationale,
oui.
développent eux-mêmes des actions qui causent justement des dommages collatéraux.
Donc
là, il faut quand même qu'ils soient rassurés. Il y a une nette distinction dans l'esprit du gouvernement entre les deux opérations.
Donc il n'y aura pas de confusion.
Oui. Quant à la capacité des forces armées, si nous avons dit que les forces armées avaient des problèmes hier et qu'aujourd'hui nous estimons que nous devons y aller, qui cela devrait-il gêner? En tout cas pas un patriote congolais. Cela veut simplement dire que nous avons mis du temps pour nous préparer. Nous ne sommes pas suicidaires. Nous n'avons pas envie de suicider nos jeunes gens. Donc nous avons mis du temps. Ce n'est pas parce que nous avons été incapables hier qu'aujourd'hui nous ne le sommes plus. Donc si nous restons incapables depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas un gouvernement qui pense à améliorer les choses. Mais ça, c'est des détails qu'on ne peut pas donner. Je pense qu'ils le comprennent dans un débat comme celui-ci. Nous avons décidé que maintenant est le moment de le faire. Et nous avons décidé de le faire.
Voilà. Juste quelques petites précisions, hein, monsieur le ministre. Vous avez dit que le président a été élu par tout le monde. Bon, on quand même dit que c'est la majorité, c'est pas tout le monde qui a élu.
Tout le monde, dès qu'il l'a proclamé, il est le président de tout le monde, même de ceux qui ne l'ont pas élu.
Ok.
Bon. En tout cas, il n'y a aucun député qui est plus élu que le président.
Bon,
même si c'est simplement la majorité.
On n'a pas de problème avec ça. C'est juste essayer de préciser. Oui, Tshabiro, je veux vous donner la parole, mais le temps d'abord de lire les premières réactions des auditeurs avec James. Qui nous écrit depuis Bukavu, il pense que le gouvernement doit d'abord améliorer la vie sociale et professionnelle des militaires et confier aux unités chargées de désarmer les FDLR des commandants compétents. Pour Bin Saloum de Goma, le gouvernement ne doit pas poursuivre deux lièvres à la fois, il doit d'abord en finir avec la rébellion ougandaise de la LRA avant de pourchasser les FDLR. Placide Lumaliza de Kananga au Kasai Occidental, il pense que le gouvernement congolais a pris une bonne décision, mais poursuit-il, il faut qu'il soit en mesure de bien mener ses opérations, sinon c'est la vie de beaucoup de civils qui pourraient être sacrifiés. Et de Bukavu, Robert Bahomé affirme qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Le désarmement forcé des FDLR vaut toujours la peine d'être exécuté. Peut-être par cette opération, la paix et la sécurité pourraient revenir à l'est de la RDC comme avant l'année 94. Oui, Ernest Cabron.
Oui, je pense que les citoyens, vous savez, devant nous, les citoyens, ils ont toujours raison. Parce que nous devons écouter ce que les citoyens, qui sont les souverains primaires, nous proposent. Je voulais simplement faire observer à l'opinion que nous, en tant qu'élus, que ce soit par 10 personnes du peuple, nous ne cherchons pas à entrer dans les secrets de Dieu, en sachant pourquoi le chef de l'État fait ça. C'est son pouvoir, c'est sa discrétion, c'est son pouvoir discrétionnaire. Notre souci, c'est le citoyen, le simple citoyen. Parce que vous savez, les dégâts collatéraux, il faut absolument qu'ils soient minimisés. Et c'est pour ça que quand je demande qu'il y ait des mesures pour minimiser les dégâts collatéraux, c'est parce que je sais que ces dégâts collatéraux peuvent avoir des conséquences sociales, économiques et même politiques, si pas des conséquences humanitaires comme nous le voyons. Et donc, quand nous demandons qu'il y ait des précautions, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut trouver que nous avons mal parlé. Deuxièmement, le Rwanda, bien sûr, ne participera pas aux opérations. Mais si nous nous battons, si nous voulons désarmer, par exemple, le CNDP, qui est aussi un des groupes qu'il faut, si pas le plus grand groupe qu'il faut des troubles au niveau de l'ordre. Le CNDP étant scientifiquement établi, mêlé d'éléments rwandais, soit de l'armée elle-même, soit des éléments recrutés au Rwanda, démobilisés, soit d'assez réfugiés congolais, recrutés par force dans des camps au Rwanda.
Scientifiquement établi.
C'est scientifiquement établi par un rapport des Nations Unies auquel nous faisons foi. Et le ministre a bien dit que c'est un rapport qui nous est extrêmement favorable. Mais, dont nous devons tirer aussi toutes les conséquences. Cela veut dire que le Rwanda, même s'il n'amène pas un seul soldat qui traverse officiellement aujourd'hui, a des hommes et des matériels et des troupes et de l'argent au Congo.
Qu'est-ce que vous voulez dire, finalement?
Cela veut dire que cette opération que nous souhaitons tous, nous devons la prendre avec beaucoup plus de prudence. Pourquoi? Parce que les Rwandais, nous ne sommes pas convaincus, du moins au niveau de la majorité des intellectuels, dites-vous, que le Rwanda a besoin qu'on neutralise les FDLR. Pourquoi? Chaque fois qu'on a fait des opérations de ces gens, chaque fois qu'on les a initiés, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des troubles. Et initiés par des personnes qui sont proches, si pas d'obédience, si pas soutenu par le Rwanda. Et donc, il faut être très prudent. Cette affaire n'est pas une affaire où on est en train de faire une réflexion académique.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le Rwanda ne soit pas associé?
Non, le Rwanda doit être associé. C'est une bonne initiative. Je demande seulement qu'il y ait des précautions, dont les détails ne peuvent pas être donnés à la radio, je concède, mais les précautions sont extrêmement nécessaires. Parce que si nous ne réussissons pas cette opération, par la faute d'un minage ou d'un sabotage qui viendrait de n'importe où, et même du Rwanda, à ce moment-là, le Rwanda va se retrouver avec un argument supplémentaire que non, ils ont essayé encore une fois, ils ont échoué, c'est pour cela que nous avons voulu faire ceci, nous avons voulu faire cela. Ça a toujours été ça le langage du Rwanda. Et donc, quand le Rwanda, nous l'associons, nous devons prendre toutes les précautions pour que cette fois-ci soit la dernière, parce que vous savez, on a beaucoup souffert. Oui, c'est ça.
Oui.
Autre chose,
oui.
Par rapport au rapport des Nations Unies, par rapport aux précautions pour les populations. Je dois d'abord dire pour les précautions. Quand on fait des opérations militaires, je ne peux pas minimiser ici aujourd'hui la capacité de faire des faits parce que je suis un ancien officier des FARDC. Je sais que nous avons des éléments de valeur. Les fautes qu'il y a chez nous, nous les connaissons, le ministre les connaît. Si on les corrige, on peut faire des exploits. Cependant, nous avons affaire à des personnes qui disent une chose et font le contraire. Le ministre le sait aussi.
Donc vous revenez sur les précautions à prendre.
Oui, c'est-à-dire que même au niveau de la préparation des opérations, au niveau des FARDC, qu'on évite les choses qui parfois nous ont affaiblis.
Non,
parce que nos gens étaient faibles, mais parce que nous les avons consciemment ou inconsciemment affaiblis.
Voilà. On est fort, c'est Matumba.
Oui. Bon, je voulais juste réagir un peu par rapport à ce fameux rapport de la Chine que nous avons lu nous tous. Hein. Donc je crois qu'il ne faut pas en présenter seulement une partie. J'étais avec quelqu'un qui disait que ce rapport finalement il semblait renvoyer tout le reste de la guerre à l'Est ou au Congo dos à dos. Il y a des équations, des additions FDLR, FARDC, CNDP, Rwanda, par exemple, FARDC. On ne croit que ça ne nous fait pas avancer par rapport à la dynamique diplomatique que nous sommes en train de penser au niveau de notre gouvernement. Et je crois que, pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'option militaire contre les FDLR ou contre tous les autres groupes. Il ne devrait être que la phase ultime, lorsque toutes les initiatives diplomatiques été refusée. Je voudrais bien partager la vision sur notre ministre de la Communication quand il nous attend que maintenant nous avons une armée capable de défendre l'intégrité de notre espace national, de sachez la fierté de tout Congolais, mais une guerre, si on peut en faire économie, il faut en faire économie, ça c'est clair. On ne fait pas juste de la guerre parce qu'on a on a des moyens. Je crois que nous avons maintenant nous avons enclenché une phase de diplomatie ascendante au niveau de la sous-région qui devait sortir de cette simplification parce que nous abordons tous les problèmes comme si nous n'avions que deux volets à faire. Sensibilisation vers les volontaires et volet coercitif. Mais où est-ce que nous mettons les aspects diplomatiques pour un problème aussi complexe aussi qui a des dimensions intérieures, extérieures, régionales, internationales, comme le problème des FDLR. Ce n'est pas maintenant le moment de dire, eh bien, nous avons enfin une diplomatie vraiment qui est en train de nous donner le premier fruit.
Merci.
Qui pourrait permettre qu'on mette en place une armée qui va faire tout le monde, mais je suis pas en train de mettre en doute la parole du ministre quant à la capacité dont il est en train de parler, mais déjà les messages des auditeurs sont en train d'un peu d'aller dans la distance en disant participons d'abord l'armée, ensuite on fait les choses aussi.
Merci beaucoup, Onesfor. Je rappelle que nous parlons de la décision du gouvernement de désarmer par la force les FDLR sous le regard observateur des officiers rwandais que nous recevons dans cette émission. Le ministre Lambert Mende, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement central, Ernest Yaviron, député national du RCD-KML et allié de l'AMP, et Onesfor Sematumba, chargé des programmes au Pôle Institut interculturel pour les grands lacs, il intervient depuis Goma. Votre préoccupation, on est fort, rejoint celle de Joseph Swende de Mbandaka en Équateur. Il demande quelles sont les précautions prises par les deux gouvernements en cas de résistance par les FDLR. Et du côté rwandais, à propos du désarmement des FDLR, une autorité militaire rwandaise, jointe ce mardi par Radio Okapi et qui a requis l'anonymat, confirme l'existence d'un plan de part et d'autre, donc entre la RDC et le Rwanda, de cette opération de désarmement des FDLR. Les détails sur quand et comment se ferait cette opération font partie, selon cet officier rwandais, du même plan qu'il n'a pas voulu dévoiler. Le gouvernement congolais, lui, a annoncé hier lundi cette décision de démanteler les forces, les ex-FAR Interahamwe. On poursuit donc cette émission avec la question de Nikki Nixon qui nous écrit depuis Ituri, nous sommes dans la province orientale. Que dit le gouvernement face à ce qu'avait dit Bosco Ntaganda de CNDP qu'il est prêt à s'allier au gouvernement pour traquer les éléments des FDLR pour que le Kivu retrouve la paix? Monsieur le ministre Lambert Mende.
Oui, je voudrais d'abord dire par rapport à la préoccupation exprimée par notre frère Onesfor, que je doute fort qu'un Congolais ou une Congolaise qui est aujourd'hui victime d'un viol ou de destruction de sa maison ou de l'assassinat de sa femme ou de son enfant puisse estimer qu'il faut que l'armée congolaise soit vraiment préparée au point pour venir à son secours. Non, nous avons un devoir en temps réel. Dès que nous estimons que nous sommes prêts, personne n'a choisi la guerre. On ne choisit la guerre que quand on est en position d'agresseur. Lorsqu'on est agressé et qu'on se défend, croyez-moi, faible ou pas faible, vous avez un voleur qui a pénétré dans votre maison, il a un revolver, vous avez une machette, si vous pouvez lui asséner un coup pour défendre votre famille, vous le faites. Donc il ne faut pas nous dire que l'armée doit être déjà en possession de bombes atomiques ou je ne sais quoi pour défendre le territoire national. Nous avons même un devoir de résister, même si les forces pourraient. Ça, c'est vous qui le dites, être déséquilibré.
Okay.
La question de l'auditeur portait sur quoi encore?
Oui, c'est sur Bosco Ntaganda, du CNDP, qui s'est dit prêt à s'allier au gouvernement dans cette opération face aux FDLR.
La position de Bosco Ntaganda, pour nous, nous avons dit que c'était un problème interne à la rébellion du CNDP, dans la mesure où nous n'avons pas combattu le CNDP parce qu'il avait un certain Kunda à sa tête, de sorte que les choses changent parce qu'il y a un autre. C'est la nature du CNDP qui pose problème au gouvernement. C'est que c'est un mouvement qui est tout à fait hors la loi, c'est un mouvement qui assassine des Congolais, qui chasse les Congolais de leur village, qui pillent le Congo ou qui aident à piller le Congo par des étrangers.
Ils sont pas là.
Si Ntaganda vient pour changer l'ordre des choses, cette nature, si avec Ntaganda le CNDP revenait à un parti politique, par exemple, ou si avec Ntaganda le CNDP revenait à la légalité, reconnaissait le processus de Goma, alors ça devient intéressant pour le gouvernement. Mais nous ne pouvons pas précéder les choses. Jusqu'à présent, rien de tel n'a été porté à notre connaissance. Et donc, pour nous, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc.
Voilà. Monsieur le ministre, on va prendre d'autres réactions des auditeurs avec Guy Maté qui est ici. Mais juste quelques petites questions, monsieur le ministre. C'est pas la première fois qu'on annonce, que les autorités congolaises, que vous annonciez le démantèlement des FDLR. Qu'est-ce qui peut rassurer l'opinion que cette fois-ci, ce n'est plus un discours ni une intention de plus?
Une chose, simplement. De temps en temps, on a attaqué les FDLR, soit les Rwandais l'ont fait seul lorsqu'ils ont occupé une partie de notre pays pendant longtemps, soit nous avons essayé de le faire seul, c'est-à-dire quand je dis les Rwandais le font seul, sans les autorités légitimes congolaises, soit nous, lorsque nous avons repris pied dans cette partie de notre territoire, nous le faisons seul, sans les Rwandais qui sont intéressés, et pour cause. Ce sont leurs rebelles, c'est tout à fait à côté de leur pays. Tout ça a été voué à l'échec. Mais une chose maintenant, c'est la toute première fois que les deux pays voisins décident d'y aller en intelligence. Même s'ils n'y vont pas ensemble en termes opérationnels, mais d'y aller en intelligence et même de s'associer les uns les autres, même si les autres ne viennent que comme observateurs. Donc là, je pense qu'il y a des chances que cela puisse réussir.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On va prendre d'autres réactions avec Guy Maté. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Claude. Pourquoi le gouvernement congolais ne plaide pas pour le dialogue inter-rwandais au lieu de sacrifier la population par cette mesure? Question de Luc Lukabia, depuis Baraka, au sud Kivu. Ignace Koupio de Kananga au Kasaï occidental se demande si aujourd'hui le gouvernement congolais n'arrive pas à résoudre le problème de la LRA et des Mbororo. Quel miracle sera-t-il pour solutionner celui des FDLR? Enfin, un auditeur anonyme demande quelle est la stratégie qu'adopte le gouvernement pour désarmer les FDLR. Ne va-t-il pas initier des négociations avec ces rebelles en cas d'échec?
Il ne nous reste plus que 3 minutes, précisément, je dirais 2. Alors, Ernest Cavero,
ce sera ma conclusion.
Oui.
Je suis convaincu que les FDLR ont commis beaucoup de crimes et qu'ils méritent d'être châtiés. Mais cette fois-ci, on doit d'abord démanteler les réseaux qui les soutiennent, parce qu'ils ne reçoivent pas leurs armes, leur nourriture, leur munition du ciel. Il y a des gens qui doivent être... Il y a un réseau qui doit être
demandé. Des Congolais, des Maïmaïs.
Je n'ai pas cité les gens parce que c'est une accusation sans preuve.
Des auditeurs qui posent la question. On a suivi mon réponse.
Deuxièmement, on doit éviter ce qui a affaibli notre armée dans les opérations précédentes contre le CNDP, contre toutes les autres troupes. Troisièmement, il ne faudrait pas qu'on donne un chèque à blanc au Rwanda, parce que le Rwanda, je l'ai dit, a déjà des troupes sur notre sol, il n'a pas besoin d'amener des troupes, s'il y en a déjà.
Vous voyez que le Rwanda, vous ne parlez pas de ceux qui sont des Congolais, qui sont
j'ai déjà dit, j'ai parlé des réseaux. Il y a des réseaux militaires, il y a des réseaux des groupes armés, il y a des réseaux économiques, il y a des réseaux politiques. Ces réseaux ne sont pas augmentés, ce n'est pas sérieux dans la nécessité de neutraliser la duplicité du Rwanda. On n'est pas sorti de l'auberge. J'espère que ça ne sert pas les cas.
En 30 secondes, le sort, c'est Matumba. Très rapidement, s'il vous plaît.
Oui. Moi, je voudrais juste demander comment l'on compte éviter la dispersion des FDLR et autres groupes armés dans nos forêts. Donc, quelle stratégie pour éviter ce que moi j'appelle l'effet coup de pied dans une fourmilière en cas d'attaque
On va laisser les 30 dernières secondes au ministre Lambert Mende pour conclure. Vous
je pense qu'il faut faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la MONUC. Nous ne considérons pas l'opération dans le Haut-Uele comme un échec. Le quartier général de LRA a été détruit. LRA est maintenant dans le désarroi. Nous sommes en train de subir, bien sûr, les conséquences de ce désarroi. C'est le prix à payer pour que la paix revienne. Au nord Kivu et au sud Kivu, les FDLR sont de toute façon déjà éparpillés. celui qui connaît la situation sait qu'ils sont déjà éparpillés.
Oui,
le fait qu'ils soient éparpillés doit nous empêcher de les réprimer pour ramener la paix à notre peuple, alors nous n'aurions pas rempli notre rôle et notre devoir de gouvernement. Nous sommes prêts à le faire et les mesures existent pour protéger les populations autant que cela se peut. Mais on ne peut pas élaborer
la solution à la radio. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à tous nos invités. C'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la mise en onde. Pierrot Lamézi, Guimaté, Kelly Kouté, Willy Akonda et Jean-Claude Kamanga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Un petit coucou à Claude Tianza et Tissine pour tous en congé.
Okapi, okapi.